Et on poursuit ce soir notre écoute du magnifique travail de dentelle élaboré par Guillaume Istas, Time Rewind. Le sujet de ce soir, c'est le colonialisme.
I can breathe. Please, the name of it. I can breathe here.
C'est une vidéo diffusée en direct sur Facebook. On y voit un policier blanc écrasant contre le sol avec son genou le cou d'un homme noir lors d'une arrestation. Quand l'ambulance arrive, Floyd est inconscient. Il meurt peu de temps après.
À Minneapolis, ils sont nombreux à avoir bravé le couvre-feu mis en place après trois nuits d'affrontements.
Même genre de scène à Atlanta.
À Houston, dans la ville où a grandi George Floyd, ils étaient des milliers.
De l'Australie au Japon, en passant par le Brésil ou encore la France, ils sont des milliers dans les rues du monde entier.
Aujourd'hui, nous sommes une population consciente. Aujourd'hui, nous sommes une population éveillée.
10 000 personnes bravent les mesures sanitaires à Bruxelles. Son objectif, dénoncer les violences policières envers les Afro-Américains aux États-Unis, mais aussi le racisme dans la société belge.
Les forces de l'ordre ne sont plus ceux qui nous protègent, mais sont parfois ceux qui nous attaquent. Et on a besoin aujourd'hui qu'on puisse se lever et être solidaires et se battre pour une même cause.
Des coups de massue, violents, pour faire vaciller le socle. La statue s'effondre. Le buste du roi Léopold II est à terre.
Depuis quelques jours, ces actes se multiplient.
Régulièrement, la statue de Léopold II fait l'objet de dégradations.
C'est le déni colonial qui est en train de ressortir. Les politiques doivent entendre ce cri.
L'affaire George Floyd a ravivé la critique contre Léopold II.
C'est ce mouvement citoyen qui a convaincu le Parlement de mettre en place cette commission chargée de faire la lumière sur la colonisation belge en Afrique centrale.
Axel Hotel présente Time Rewind, un voyage temporel en quête des racines du présent. Une série radiophonique de Guillaume Istas. Aujourd'hui, retour en arrière sur la colonisation du Congo par la Belgique.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mars 1877. Henry Morton Stanley découvre le Congo.
Ceci est l'histoire d'une nation naissante, d'une création qui a fait honneur à un petit pays, des pionniers de la civilisation.
L'histoire du Congo pourrait tenir dans une vie d'homme. Ce pays est né, a grandi, s'est ouvert au monde et à la civilisation en moins de 80 ans. Là où s'élèvent aujourd'hui des villes, des usines, des écoles, des hôpitaux, des missions, il n'y avait rien. Vous m'entendez? Rien au temps de nos grands-parents.
Il y avait le fleuve et la forêt.
Mais ce fleuve, cette forêt n'était même pas connue. Une tache blanche sur les atlas du monde.
Et Stanley?
C'est en 1877 qu'il atteint les rives du Congo à hauteur de la future capitale. Jamais avant lui, homme blanc n'a pu contempler ce paysage, cette nappe d'eau calme que son compagnon Pocock baptise aussitôt Stanley Pool. Quand le jour se lève au lendemain de l'arrivée de l'expédition, les grands arbres mirent leur frondaison dans l'eau comme à l'aube du premier matin du monde.
L'épopée de Stanley va permettre au roi Léopold II, dont la perspicace attention est fixée sur le centre africain, d'en mesurer les possibilités et de concevoir un dessin grandiose et le bâtir ensuite à la face du monde étonné avec une opiniâtreté inflexible et une maîtrise incomparable. C'est que la Belgique, petit pays surpeuplé, qui sent se dresser en Europe les barrières du protectionnisme, a besoin de déboucher. Tout jeune encore, le futur roi s'est un jour écrié: il faut une colonie à la Belgique.
Léopold II
a écrit un jour ceci. Un peuple qui se contente des limites de sa patrie et qui redoute ne fût-ce que l'ombre d'un conflit, ne fait pas preuve des caractéristiques d'une race supérieure.
Léopold transforme la bienfaisante Association internationale africaine en compagnie commerciale. La nouvelle association congolaise est strictement tournée vers le profit. Il lui faut des traités officiels pour prouver que le Congo lui appartient bel et bien. Stanley est chargé d'obtenir coûte que coûte la signature des chefs indigènes. Les hommes de Stanley versent des pots de vin ou agissent par ruse pour obtenir l'assentiment des chefs congolais. Ils prétendent même que l'homme blanc a le pouvoir sur le soleil.
Léopold II, par un coup superbe de diplomatie, parvint à arracher aux grandes puissances un vaste territoire au centre du mystère africain.
Le 29 mai 1885, Léopold II proclame son avènement au trône de l'État indépendant du Congo. De 1890 à 1898 a lieu, au milieu de difficultés sans nombre, la construction de l'indispensable chemin de fer entre Matadi-Porte-Océane et Léopoldville-Terminus des voies fluviales.
Dans le système belge, les Noirs étaient considérés comme une vaste réserve de main-d'œuvre. Ils n'étaient que les auxiliaires du développement économique. Le recrutement de la main-d'œuvre s'est effectué dans un réel climat de violence. Les recruteurs allaient pratiquement capturer des hommes dans les villages.
Le jeune État doit faire face à des dépenses énormes qui s'accroissent au même rythme que s'étend son administration. Malgré le recours à l'emprunt, le roi est obligé de pratiquer une politique de plus en plus commerciale, largement basée sur l'exploitation des richesses par l'État.
En 1888, un vétérinaire écossais, John Boyd Dunlop, bricola une invention qui allait améliorer le confort de milliers de voyageurs en Europe et en Amérique. Le caoutchouc gonflable. Pour Léopold, ce fut un salut miraculeux. Son Congo était au bord de la faillite. Ce qui était un projet moribond venait d'un seul coup de se transformer en miracle économique époustouflant. Léopold amassait des millions.
Léopold II organise la production à grande échelle et réalise pour son propre compte et celui de l'État colonial d'énormes bénéfices. Tous les moyens sont bons. Il nomme des administrateurs coloniaux, lève une armée. La population est soumise à des contraintes en vue d'accroître la production. Les militaires incendient des villages, emprisonnent des femmes et des enfants. Et lorsque les quotas ne sont pas atteints, ils tirent une balle dans la nuque des indigènes.
Avril 1895, 6 indigènes tués, village livré aux flammes. Déjeuner, puis retour. Je me dirige ensuite sur Yamapete. Je fais incendier le village. Nous rentrons en triomphe à Bazoko, avec nos sanglants trophées. Nous envoyons plusieurs groupes de soldats battre la plaine. Ils reviennent quelques heures après avec 11 têtes et 9 prisonniers.
Arrive le début du XXe siècle, les attaques se font virulentes. Des récits, des photos circulent en Europe, aux États-Unis. Pour faire régner l'ordre, on coupe des mains.
Les soldats de la force publique devaient couper la main droite des morts. Avant une attaque, chaque homme se voyait attribuer un nombre fixe de cartouches. Pour prouver aux officiers blancs qu'ils n'en avaient gâché aucune, les soldats devaient ramener une main coupée pour chaque balle tirée.
Vous voyez les bras ici, ils coupaient au niveau du poignet.
Si vous voulez vous enfuir dans la forêt, même dans la forêt, ils vous attendent.
caoutchouc dans
Deviez-vous tout le temps rapporter du caoutchouc?
Nyos.
Oui, tout le temps. On a vraiment souffert parce qu'il fallait tout le temps les ramener ça.
Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs?
Des voix s'élevèrent pour que Léopold soit jugé et condamné devant la nouvelle cour internationale de La Haye et pour qu'il soit pendu.
15 novembre 1908. Sous la pression internationale, le Parlement de Belgique vote l'annexion de l'État indépendant du Congo et prend en charge son administration.
À ce moment, il devient possible d'apprécier l'œuvre de Léopold II, qui, pendant 23 ans, fut roi souverain de l'État indépendant du Congo. Cet État créé, il s'attache à l'occuper et le pacifier. Le grand roi n'oublie pas que l'action entreprise en Afrique est avant tout œuvre humanitaire. En 1897 déjà, il écrivait « C'est à assurer le libre épanouissement de la population native que doivent concourir nos premiers efforts. Notre programme à tous, c'est le travail de régénération matérielle et morale qu'il s'agit d'opérer parmi les populations. »
Chant de mort et de funérailles, Bateke de Ngabi.
Il nous est donné aujourd'hui d'admirer précisément à la Galerie Bruegel, et cela jusqu'au 18 janvier, exposition que nous allons aujourd'hui visiter, guidée précisément par Madame Marthe De Witt, qui pendant près de 3 ans a séjourné au Congo, y a voyagé avec pour but essentiel de rechercher principalement en brousse les types indigènes les plus caractéristiques et de les fixer sur la toile ou sur le papier, et à laquelle nous avons demandé de refaire avec vous, chers auditeurs, de refaire son voyage en prenant comme témoin les œuvres ici rassemblées. Oui, je vois là quelques types Mangbetu.
Oui, évidemment là, alors j'ai été d'un bond transporté chez les Mangbetu.
Et ce sorcier, c'est un sorcier Mangbetu également?
Mais je crois, oui, je crois que c'est un sorcier qui est sorti de la forêt, je ne dirais pas pour moi, mais en l'occurrence, il portait ses gris-gris à la mission, et les gris-gris, comme vous le savez, ce sont des choses qui sont très peu appétissantes pour nous.
Mais tout de même, amener un sorcier à poser pour un peintre ou un photographe, je crois que... c'est presque incroyable.
Oui, amener un sorcier à poser est une chose extrêmement difficile, mais tous les nègres le veulent. Les nègres en général ne veulent pas poser.
Surtout en brousse.
Et surtout en brousse, mais enfin, grâce aux autorités que j'ai eues, et ma foi, l'autorité blanche, heureusement pour nous, est encore la plus forte et prédomine celle de tout sorcier, de tout chef de clan. Là, le sorcier comme les autres est obligé d'obéir aux blancs. N'est-ce pas,
il n'a pas eu peur d'être dépersonnifié.
Ah oui, j'ai eu le cas avec une vieille femme, entre autres. Cette femme a refusé énergiquement de poser pour moi parce qu'elle était certaine que j'allais capter son art.
C'est la croyance générale des Noirs.
C'est la croyance générale des Noirs.
Et quand ils se voient?
Alors, quand ils se voient, alors là, on peut dire que c'est une rigolade parce que tout le monde rit. Tout le monde rit, et particulièrement Mangbetu, étant donné que le Mangbetu est particulièrement gay.
Qu'il, il a bon caractère.
Il a bon caractère, il extériorise ses sentiments.
Rendons-nous compte des difficultés vaincues, des obstacles franchis. La dernière école en date présente encore l'aspect rudimentaire de constructions empisées sous toit de chaume. Mais 3 frères décidés, organisateurs nés, alertes et joyeux, ébauchent des plans d'avenir dans une brousse sauvage brûlée par le soleil des tropiques. Ils font la classe en plein air, accueillant une troupe de petits bonshommes déguenillés, mais avides d'apprendre, et qui abandonneront bientôt leurs arcs et leurs chasses pour se plonger dans les livres. Des transformations merveilleuses s'opèrent. Ces enfants, hier incultes et sauvages à peine couverts d'un pagne, deviennent disciplinés, lisent, écrivent et calculent.
Dès les premières années de la colonisation, les missionnaires catholiques se sont lancés dans l'enseignement primaire. Appuyés par l'État, ils vont ouvrir beaucoup d'écoles. Ils ont compris que l'enseignement de base sera le meilleur instrument de l'évangélisation. Par ailleurs, ils développeront un enseignement professionnel, certes de qualité, mais limité à la formation d'auxiliaires qualifiés pour l'administration et les grandes sociétés.
L'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, d'entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation ? De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement des dieux, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand.
La colonie est administrée avec une tranquille fermeté. La discipline semble parfaite. Les administrateurs aiment leur métier. Ils jouissent d'une autorité qui n'est pas remise en question. Ainsi, la Belgique travaille avec persévérance et avec profit. Elle est assez raisonnable pour ne pas donner ce qu'on ne lui demande pas. Elle offre, dans un avenir secoué de convulsions, le spectacle bien réconfortant de l'ordre et de la raison.
Comme pour les mines et l'industrie, ce sont encore les grandes sociétés qui contrôleront la majorité de la production agricole, en se lançant dans les cultures riches, celles qui rapportent le plus, comme le café ou l'huile de palme. Ces grandes plantations sont installées par le biais d'un système original mais contestable, déjà mis au point par Léopold II, le système des concessions de terres. Les terres vacantes, mais l'étaient-elles vraiment, revenaient à l'État, qui les cédait aux grandes sociétés privées, en échange d'une participation aux bénéfices. Ce système sera incontestablement à l'origine d'un grand dynamisme économique, mais à l'origine aussi d'abus scandaleux.
Le Congo peut fournir quasiment toutes les huiles, toutes les graisses. Le Congo peut fournir du bétail, du maïs, un assortiment complet de produits alimentaires. Le Congo possède une quantité énorme de minéraux. Il ne lui manque provisoirement que le fer et le pétrole. Mais il manque parce que tout n'a pas été exploré, tout n'a pas été exploité.
Tout le Congo est au travail. Le rendement est inespéré. On a repris l'exploitation du caoutchouc naturel. C'est un dur travail que les indigènes accomplissent cependant sans qu'il ait fallu recourir à des mesures de contrainte.
Le pouvoir colonial est quasiment absolu et la liberté des indigènes très relative. Le blanc exerce par la contrainte, par des démonstrations de force, par la persuasion, son autorité.
Qu'est-ce qu'ils payaient comme impôts les indigènes?
Ah, ça dépendait. Il y avait des indigènes qui payaient pratiquement rien, et il y en avait d'autres qui payaient jusqu'à 150 francs par an.
L'impôt est une notion quand même pas très africaine. Est-ce que les Noirs acceptaient facilement cette perception?
Oui, ils acceptaient ça facilement, et j'ai l'impression, n'est-ce pas? L'impôt sous forme d'argent n'était pas africain, mais l'impôt, n'est-ce pas, sous forme de prestation, il était bien. Hein? Cette notion de travail qui était reprise par la contrainte par corps, parce que ces gens qui étaient soumis à la contrainte par corps étaient dans la même prison que ceux qui étaient condamnés par le tribunal.
Vous voulez dire que dans les prisons, on mélangeait des prisonniers de droit commun avec des gens qui n'avaient pas payé l'impôt?
Dans les anciennes prisons.
Moi, j'ai toujours essayé de tirer le maximum, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre pénitentiaire. J'ai fait des fours à briques. J'avais des scieurs de long, mes prisonniers. Mais surtout, autour de la prison, pour bien la dégager, j'avais établi des cultures vivrières. Ça fait que je vivais presque pour rien. Et les prisonniers ne me coûtaient pas grand-chose.
Mais avec ce système, est-ce que vous ne risquiez pas d'abuser un petit peu des indigènes?
C'est ça, j'ai été poursuivi pour abus de pouvoir, par exemple. N'est-ce pas? Pour moi, c'était de la persuasion.
Mais au fond, vous les forciez un peu à travailler, quoi.
Oui.
La Belgique saura faire du Congo sa source principale de matières premières, son client principal d'objets manufacturés.
Ça, c'est une première chose. Il y a une autre qui est la contrainte qui était effectivement exercée à cette époque-là, et plus tard aussi d'ailleurs, par toutes sortes de moyens, y compris la chicotte.
Oui, le fouet était absolument courant dans tous les territoires du Congo. Il se donnait le matin, n'est-ce pas, aux prisonniers qui n'avaient pas été sages.
Et un coup de chicotte, c'est une caresse ou bien c'est...
Ah non, c'est pas une caresse. Hein. C'est une lanière de cuir de buffle, n'est-ce pas? Et alors, on tape dessus.
Je me trouvais devant des individus qui, au départ, n'avaient pas nécessairement envie de faire tout ce que nous leur demandions. Par conséquent, il fallait presque, si le mot n'est pas trop lourd, il fallait subjuguer.
C'est le gouvernement, l'administration belge qui était très dur, militaire, policière, et les fouets ne chômaient pas.
La chicotte.
Ce qu'on appelait chicotte, la chaîne, tout ce qu'on mettait en prison, au cachot, au commissariat de police, tous devaient porter des chaînes au cou, des chaînes qui pesaient au moins 15 à 17 kilos, à deux chacun. Au bureau, il ne faut rien dire, il faut rester là devant le nom qui est patron. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, je pense tout à fait comme vous, je pense tout à fait comme vous, oui, monsieur, oui, monsieur. Pour aller pisser, il faut l'autorisation. De temps en temps, il y avait certaines explosions, mais toujours au détriment des indigènes qui réagissaient.
Il est clair qu'il était impossible de contester, de constituer un groupe qui sera un groupe de pression pour faire valoir un autre point de vue que celui qui était cohérent avec le projet de colonisation.
Durant la période coloniale, les sociétés minières du Congo exporteront 5,5 millions de tonnes de cuivre, plus de 3 tonnes de diamants industriels et plus de 260 000 kilos d'or. Cette économie profitera surtout aux hommes et aux pays qui détenaient les capitaux initiaux. Et l'on dira souvent que les bénéfices de ceux-ci étaient exagérés jusqu'à l'indécence.
C'était le temps de l'impérialisme. Il se dégage de certains aspects fondamentaux de cette période une telle similitude avec les phénomènes totalitaires du XXe siècle qu'on pourrait, non sans raison, y voir l'étape préparatoire des catastrophes à venir.
L'impérialisme, Hannah Arendt.
L'Allemagne continue sa marche vers l'Est. La Wehrmacht fait à 10 h du matin son entrée à Prague où la suit, deux jours plus tard, le chancelier...
Et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée...
L'expansion, tout est là, disait Cécile Rhodes. Et il sombrait dans le désespoir, car chaque nuit, il voyait au-dessus de lui ces étoiles, ces vastes mondes qui demeurent toujours hors d'atteinte.
Le 9 avril 1940, elle s'était attaquée au Danemark et à la Norvège. Dans un monde
si je pouvais, disait-il, j'annexerais les planètes.
Puis le 10 mai, l'attaque aérienne allemande se déclencha. Elle s'abattit sur la Belgique et le petit Luxembourg sans même la formalité d'une déclaration de guerre.
L'hitlérisme consiste dans l'application par l'Allemagne au continent européen des méthodes de la conquête et de la domination coloniale. Les Tchèques, les premiers, ont signalé cette analogie quand ils ont dit « Aucun peuple européen n'a jamais été soumis à un tel régime. Ce mal que l'Allemagne nous fait, nous l'avons fait à d'autres. En privant les peuples de leurs traditions, de leur passé, par suite de leur âme, la colonisation les réduit à l'état de matière humaine. Les populations des pays occupés ne sont pas autre chose aux yeux des Allemands. Mais on ne peut pas nier que la plupart des coloniaux aient la même attitude envers les indigènes.
Contre le colonialisme, Simone Weil.
Rien n'avait tenu sous les bottes allemandes. Pétain, d'un trait de plume, ratifiait l'esclavage de cette terre opulente. Et le vainqueur, sur la foi de ce trait de plume, exigeait. Il exigeait le blé des plaines par millions de quintaux. Il exigeait les troupeaux des prairies par milliers de têtes. Il exigeait le pain des vieillards et le lait des enfants. Il envoyait 1200 000 Français dans les usines allemandes, en faisait travailler des milliers d'autres dans les usines de France réquisitionnées.
S'il y a vu du père, c'est par manque de logique. Au fond, c'est qu'il ne pardonne pas à Hitler. Ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc. Et il lui reproche d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coolies de l'Inde et les nègres de l'Afrique.
Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire.
Dans des locaux magnifiquement aménagés, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie prodiguent leur inlassable dévouement à l'enseignement des petits indigènes. Voici la rentrée de la classe. Chacun se dirige vers son pupitre avec une discipline parfaite. Ils sont sages comme des images, mais combien de temps cela durera-t-il ?
Avant la guerre, le seul partenaire que le Congolais avait devant lui, c'était un Belge, disons, réputé invulnérable. Et voilà que tout d'un coup, on lui a dit, la Belgique, elle est finie, les Allemands les ont battus, donc d'abord il y a des plus forts que les Belges. Et puis alors partout, l'effort de guerre, en disant, c'est grâce à toi que la victoire, nous allons la voir. Et puis la victoire, on l'a eue. Et brusquement, mais ces gars, mais on a eu besoin de moi pendant 5 ans. D'où il y avait un changement qui s'était fait.
Ils sont sages comme des images, mais combien de temps cela durera-t-il ?
Dans l'État colonial, les Noirs n'ont pratiquement aucune responsabilité. Exception faite pour le clergé, ils n'occupent que des postes subalternes, que ce soit dans l'armée, l'administration ou les entreprises. Après la guerre, certains Noirs auront le courage de réclamer plus de liberté et de responsabilité. Dans le numéro d'avril-mars 1945 de La Voix du Congolais, l'écrivain Lwami Chibamba demande dans un article intitulé « Notre place dans le monde de demain » demande moins de discrimination et plus de participation à la gestion du pays. L'article est virulent et provoque les foudres du colonisateur. Chibamba va connaître la prison.
Quand mon article a paru, j'étais mis sur la sellette pour savoir qu'est-ce que je voulais. Et je l'ai dit tout à l'heure, je veux que le système d'indigénat soit supprimé. J'ai dit, il fallait nous entraîner à être des administrants de notre pays en collaboration avec vous. Et j'avais dit crûment, le gouverneur général blanc, le vice-gouverneur général noir, là, c'était le sacrilège. Et j'ai été puni de coups de fouet pendant 1 mois au parquet général.
L'indigène qui se savait capable, qui se sentait capable, qui voyait que certains Européens, je dis, n'avaient rien de plus que lui, qu'une simple blancheur de peau, ces indigènes se demandaient pourquoi, alors qu'eux rendent plus de services que le blanc, ils ne sont pas considérés autant.
En 1947, afin d'apaiser les tensions, l'État belge invente une catégorie sociale, l'évolué. Un statut flou qui veut qu'au terme des rites de passage, le noir dit évolué se voit accorder quelques privilèges. Certains obtiendront la carte du mérite civique qui leur permettra d'entrer dans les espaces réservés aux blancs et aussi d'échapper à la punition de la chicotte. La carte du mérite civique ne sera attribuée que parcimonieusement. Jusqu'à l'indépendance, sur les 13 millions de Congolais, seuls 1557 d'entre eux en posséderont une.
un courrier spécial arrive au terme de son voyage. En 16 heures de vol, il a franchi la distance qui sépare Bruxelles de Léopoldville. À bord se trouve un jeune souverain qui, pour la première fois depuis son accession au trône, vient visiter et reconnaître ses territoires d'outre-mer, saluer ses sujets et recevoir leur hommage. Baudouin Ier, roi des Belges.
Ce voyage se situe au sommet de la prospérité économique incroyable du Congo de l'époque. Tout est calme, tout est heureux et la liesse populaire est sincère. Ça a déclenché d'énormes espoirs, ça c'est certain.
On espérait beaucoup de lui et on espérait que son passage allait amener les Belges à changer leur mentalité. Puisque le roi se montrait si généreux, si accueillant, si abordable, on souhaitait que l'agent territorial, l'administrateur des territoires se montre aussi compréhensif, aussi attentif aux problèmes des indigènes.
Ces espoirs ont été très vite déçus. Le roi, c'est une promesse du colonisateur qui n'a pas été tenue.
Et pendant ce temps, on continuait à montrer un Congo idyllique où il ne se passait rien.
Dès 1956 et en quelques mois, par une cadence accélérée, la politique congolaise allait s'organiser et s'affirmer. S'affirmer en réclamant au gouvernement belge la fin rapide du régime colonial, s'affirmer en réclamant l'indépendance.
En août 1956, l'ABACO, l'association des Bas-Congo, groupement jusqu'alors uniquement culturel, publiait son premier manifeste politique.
Notre patience a déjà dépassé les bornes. Puisque l'heure est venue, il faut nous accorder aujourd'hui même l'émancipation, plutôt que la retarder encore de 30 ans. Des émancipations tardives, l'histoire n'en a jamais connues. Parce que quand l'heure est venue, le peuple n'attend pas.
Je déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles, 1958.
L'exposition 58 a été un tournant dans l'histoire de l'émancipation congolaise. Parce que jusqu'en 58, il y avait moins de 100 Congolais qui avaient visité la Belgique. Brusquement, pendant quelques mois, plus de 600 Congolais étaient venus en Belgique. Alors, on ne pouvait pas les empêcher, à leur retour, de parler de la différence de mentalité entre le Belge de Belgique et le Belge du Congo.
Au centre de l'exposition, on a construit une maison géante formée par de grosses boules d'aluminium et qu'on appelle atomium. Celui-ci se compose de 9 boules reliées entre elles.
Dans la situation coloniale, tout blanc était censé être le patron. Débarquer en Belgique, voir qu'il y a des ouvriers belges, il y a des garçons de café belges, c'est une révolution mentale. Alors, une fois quand on rentre au Congo, on n'a plus cette idée que le blanc veut dire toujours le patron. Pratiquement, le blanc, l'européen, c'est un être humain comme n'importe qui.
Un couple congolais va faire un tour de l'exposition en pousse-pousse. Les voilà en route. Ils sont souriants et très curieux des belles choses qu'ils voient autour d'eux. La visite est terminée. Noir ou blanc, nous sommes frères grâce à l'exposition de 1958.
Daniel Reculé, vous entrez en première candidat à l'Université de Bruxelles. Ici, vous serez peut-être au cours à côté d'un noir. Est-ce que cela pose un problème pour vous ?
Non, je ne pense pas que cela pose un problème pour moi. Je crois que je n'aurai jamais d'amis noirs. Mais
pourquoi ?
Parce que nous avons vécu en Afrique, je suis née en Afrique, et nous avons trop vu la différence de milieu entre un noir et un blanc, parce que les blancs ont encore assez bien à apprendre aux noirs, tandis qu'à mon avis, nous n'avons plus rien à apprendre des noirs. Pour ça, je crois que...
Je peux intervenir.
Et je m'excuse, mademoiselle, mais
Comment avez-vous vécu au Congo? Est-ce que vous avez jamais donné la peine de connaître les Noirs au Congo? C'est un autre problème. Or, vous ne l'avez jamais fait.
Ça, je...
Il faut absolument essayer de... Si vous nous demandez une interview, il ne faut pas nous demander des histoires superficielles. Nous voulons dire ce que nous pensons. C'est évident que les Blancs vivent en Afrique, ils ne se sont jamais donné la peine de connaître les Noirs. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un Noir. Ils ont jugé sur les différences matérielles. Or, les différences matérielles d'une communauté humaine et d'une autre ne font pas nécessairement la valeur des gens. Je ne crois pas à la supériorité des Blancs, pour la bien bonne raison que, justement, le racisme est une honte.
Le 4 janvier 1959, un meeting de la BAKO à Léopoldville est interdit par les autorités belges. La colère éclate, s'en suivent des émeutes.
De regrettables événements se sont produits à Léopoldville. Chacun de nous ne peut que les ressentir douloureusement. Il importe à présent que le calme revienne dans les esprits.
La foule s'en prend aux policiers, ceux-ci tirent. C'est l'émeute. Incendies et pillages se succèdent pendant 3 jours.
Pour la première fois, il y aura des cris de haine à l'égard des Européens.
La répression fait 42 morts, 250 blessés, tous congolais. Devant la gravité de la situation, le gouvernement belge promet l'indépendance. Le roi l'annonce à la radio le 13 janvier.
Le but de notre présence sur le continent noir a été défini par Léopold II. Ouvrir à la civilisation européenne ces pays attardés, appeler leur population à l'émancipation, à la liberté et au progrès. Continuant ces nobles visées, notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix.
Pourquoi va-t-on si vite à ce moment-là?
Mais on va si vite, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est la violence. La Belgique a peur de la violence, elle a été extrêmement surprise du 4 janvier, et il y a une réaction de l'opinion pour empêcher une solution militaire. Il y a alors également, au point de vue international, sans doute des pressions très fortes. Je pense notamment aux États-Unis, pour que les Belges aillent vite et pour qu'ils passent la main.
Mais du côté des responsables politiques belges, est-ce qu'il y a un plan, une vision globale pour cette décolonisation?
Non, certes pas. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de calendrier.
Au Congo, le mot indépendance devenait un mot magique.
Indépendance, tcha-tcha, tozoumiye, otipoisa, tcha-tcha.
Les partis politiques s'organisent, deux leaders vont dominer la scène politique congolaise, Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba.
La Belgique a reconnu les droits du Congo à l'indépendance. Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets.
Les Congolais sont impatients. Le roi avait promis l'indépendance sans précipitation à considérer, mais sans atermoiement funeste. Pour les Congolais, il leur semble qu'il y a davantage d'atermoiement que de précipitation.
Le 26 novembre à Léopoldville, M. de Scrèvre annonce la convocation d'une table ronde après les élections communales. Les institutions pourront être mises en place plus rapidement.
Indépendance, tcha-tcha, tozoumiye, otipoisa, tcha-tcha, toubakini, otabero, tcha-tcha, bagayeo, onipada.
Arrivent entre-temps à Bruxelles les premiers délégués congolais à la table ronde, sous la conduite de Kalonji, Kasavubu ayant fait un crochet par Paris.
C'est le 20 janvier 1960, dans la salle Europe du Palais des Congrès à Bruxelles, que ces négociations vont commencer.
Lumumba, qui avait été emprisonné à Stanleyville pour incitation à émeute, avait été relâché pour pouvoir participer à la table ronde.
Le Front commun posa le problème de la date de l'indépendance comme prioritaire par rapport à celle de l'établissement des structures de l'État futur.
Les parties présentes sont tombées d'accord sur la date du 30 juin.
En un mois, tout est terminé, décidé. L'organisation des prochaines élections, la loi fondamentale du nouvel État, la date de l'indépendance. Selon l'expression du socialiste Rollin, la Belgique devait remettre toutes les clés au Congo le 30 juin 1960.
La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle.
Les Congolais ne cachaient pas leur joie. L'indépendance au 30 juin, qu'elle serait belle la République après la souveraineté belge. Et puis, les politiciens n'avaient-ils pas répété « Indépendance égale abondance ». Quelques blancs, plus lucides que d'autres, ne partageaient pas l'optimisme officiel. Ils savaient qu'au 30 juin 1960, il y aurait au sommet un président et des ministres, mais en dessous, rien. Pas d'administration noire, pas de cadre noir.
La table ronde a amené ce que j'appellerais le chaos congolais. Tout simplement parce que les Belges qui étaient au pouvoir à ce moment-là n'avaient pas un programme. Il n'était pas décidé à amener le Congo vers l'indépendance étape par étape et en collaboration avec les Congolais.
Au cours d'une deuxième table ronde portant sur l'économie congolaise, la Belgique obtint que les entreprises belges, basées au Congo, puissent placer leur siège social sur le sol belge. Avec ce transfert, le trésor congolais voyait s'envoler la manne financière que représentaient les recettes fiscales. La Belgique dissout aussi le comité spécial du Katanga, l'organe de contrôle de la gigantesque union minière. En plus de perdre des millions de dollars, le Congo perdait aussi la possibilité de mettre l'industrie minière au service du pays.
Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo est proclamée, la liesse populaire éclate.
Ce soir, cette nuit, on peut s'attendre à ce que la joie populaire se déchaîne dans la cité africaine.
L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II et continuée avec persévérance par la Belgique.
À 11h35 ce matin, alors que le roi Baudouin et le président Kazavubu venaient d'échanger des discours qui dégageaient la signification de l'accession du Congo à l'indépendance, Patrice Lumumba, premier ministre, se levait à son tour.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs.
M. Lumumba consacrait la plus grande partie de son allocution à faire le procès du colonialisme belge, et cela avec une exceptionnelle sévérité dans les mots et une implacable dureté dans le ton. D'abord, pendant que M. Lumumba prononçait son discours, la consternation allait croissant dans les milieux belges et internationaux.
Il nous était impossible d'accepter ce discours.
Certains observateurs en venaient à se demander qu'il ne serait pas préférable que le roi rentre immédiatement à Bruxelles.
Le discours violemment anticolonial prononcé par le Premier ministre au cours des cérémonies va heurter profondément les Belges. Certains historiens affirment qu'à ce moment-là, le grand capital et le pouvoir métropolitain ont tout mis en œuvre pour évincer le leader nationaliste au profit de Kazavubu, plus rassurant que Lumumba, souvent taxé de sympathie communiste. Un climat d'incertitude plane sur le pays.
Au moment de l'indépendance, il n'y aura pas un seul agent territorial noir préparé et formé.
Les Belges ont tout abandonné. Ils laissent à une élite sans expérience une administration très complexe, complètement décapitée. Mais ceci expliquera le chaos qu'en partie. La fragilité du jeune État congolais trouve aussi son origine au plus profond du passé colonial, qui aujourd'hui appartient à l'histoire. Dans les jours qui suivent, le bel édifice s'écroule.
Juillet 1960, une mutinerie éclate dans la garnison de Thysville.
L'indépendance n'était pas la même pour tous. Il y avait les ministres et leurs belles voitures héritées des Blancs. Il y avait le petit peuple qui ne gagnait pas plus qu'avant l'indépendance. Pour l'instant, les soldats de la force publique font leur métier, mais eux aussi seront bientôt déçus. Pas d'augmentation de soldes et des officiers Blancs qui continuent à les commander. La mutinerie éclate.
Il y avait une centaine de passagers qui ont été principalement maltraités, des femmes, des enfants. Il y avait quelques viols, des hommes avec les chemises déchirées.
Les officiers Blancs seront emprisonnés, frappés, battus.
Je vais vous dépouiller. Il n'y avait plus de police. Police inexistante.
Des dizaines de femmes européennes seront violées. Pour la première fois, les soldats vont s'en prendre aux Blancs.
L'ambassadeur Vandenbos décide de faire procéder à une opération militaire sur Matane.
Les Belges interviennent pour sauver les Européens menacés.
Tout ça a provoqué alors dans tout le Congo une effervescence dans toutes les garnisons.
Pour les Congolais, c'était une attaque belge.
C'était l'attaque
une reconquête.
Les Belges qui reprenaient ce qu'ils avaient donné.
Les interventions militaires de la Belgique au Congo sont effectivement et honnêtement des opérations qui sont faites uniquement pour protéger et pour sauver des vies humaines.
Entre-temps, la crise congolaise était devenue une affaire internationale. Le Conseil de sécurité, réuni le 13 juillet, demande le retrait des troupes belges et décide d'envoyer au Congo une force internationale, les casques bleus. À Moscou, Nikita Khrouchtchev, le numéro un soviétique de l'époque, traite les Belges d'agresseurs.
Nous disons notre profonde indignation au sujet des déclarations qui ont été faites par les représentants de la Russie soviétique et de la Pologne.
11 juillet 1960, Moïse Tshombe, devant le chaos généralisé, dit-il, proclame la sécession du Katanga.
Cette province, une des plus riches du pays en termes de minerais, a fait sécession avec le soutien de la Belgique, le projet étant vraisemblablement de déstabiliser le Congo indépendant depuis cette fameuse province du Katanga.
Nous vivons des jours d'angoisse et de cruelle incertitude.
Le 5 septembre 1960, Joseph Kasavubu saisit l'occasion de faire ce que de nombreux conseillers belges et occidentaux lui avaient glissé à l'oreille. Révoquer Lumumba, perçu comme un sympathisant communiste, instable et dangereux.
Nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres.
Le 14 septembre 1960, à Léopoldville, un jeune colonel de 30 ans fait son premier coup d'État. Mobutu neutralise tous les politiciens, y compris Kasavubu et Lumumba. Et pendant ce temps, c'est la guerre, souvent cruelle, des morts anonymes dans la brousse, tout un peuple pour qui l'indépendance signifiera deuil et souffrance.
Patrice Lumumba revient à Léopoldville, mais cette fois en prisonnier. L'ancien Premier ministre a en effet été arrêté lors d'un voyage en avion au Congo. Son arrestation a provoqué plusieurs combats entre ses militants et les troupes de l'armée congolaise.
Patrice Lumumba vient d'avoir 35 ans. Il aura été Premier ministre pendant 5 mois. Brutalement frappé, insulté, on lui crache la haine au visage. Il sait qu'il va mourir. Il n'a plus que quelques jours à vivre.
Le 17 janvier 1961, en pleine nuit, dans la savane katangaise, Moïse Tshombe, accompagné de quelques ministres ainsi que des membres de forces de l'ordre katangaises et belges, procède à l'exécution de Lumumba et de deux de ses fidèles.
Patrice Lumumba entre dans la légende nationaliste.
Derrière Lumumba, c'est surtout un projet politique qu'on a voulu assassiner. Ce projet, c'est celui du nationalisme congolais. L'idée de Lumumba était de faire du Congo indépendant un État unitaire dans lequel les richesses du pays seraient avant tout utilisées au bénéfice des Congolais et pas uniquement au bénéfice des États occidentaux, coloniaux et des sociétés privées. Au regard de cette réalité, on peut donc affirmer aujourd'hui que la mort de Lumumba est une victoire des intérêts coloniaux et post-coloniaux sur les intérêts du Congo et des Congolais.
Tumbana tujali bisutele na mwana tumbana tujali bisutele mama na mwana tumbana tujali bisutele.
Ma chère compagne Pauline, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Durant toute ma lutte pour l'indépendance de notre pays, nous n'avons jamais douté un instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, les colonialismes belges et ses alliés ne l'ont jamais voulu. Ceux-ci ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que puis-je dire d'autre? Que je sois mort ou vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, mais les Congos. Ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens dans le fond de mon être que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous les ennemis intérieurs et extérieurs. Qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et humiliant et pour restaurer sa dignité sous un soleil éclatant. L'histoire prononcera un jour son jugement, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Paris, à Washington ou aux Nations Unies, mais ce sera celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo! Vive l'Afrique!
Patrice Lumumba, prison de Tisville, 8 janvier
1961.
C'était Time Rewind, retour sur le colonialisme du Congo par la Belgique. Une série radiophonique de Guillaume Istas. Écriture, réalisation, montage et création musicale, Guillaume Istas. Mixage, Vincent Venet. Une production de Axel Hotel en partenariat avec la Sonuma. Avec les voix de Francesco Italiano, Denis Mpunga, Marie Delay et Agnès Limbos. Ce documentaire a reçu le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que le soutien du Fonds Gulliver, une initiative de la RTBF, de la Promotion des Lettres, de la SCAM Belgique et de la SACD Belgique, de la SCAM France et de la SACD France, du Labo à la RTS et de Parouidire à la RTBF, et des podcasts de la RTS et de la RTBF. Un tout grand merci à Pascal Tison, Martina Gozzini, Benoît Lupourcy, Marie Venin et Paola Steven.